11e étape, Mère et Chalet. Vous vous trouvez maintenant devant le Théâtre Social de Com, qui depuis plus de 2 siècles accueille des artistes de renommée nationale et internationale. Le personnage qui nous intéresse, cependant, n'est pas un artiste, mais une femme, entrée par cette porte en qualité de spectatrice le 15 août 1840, pour assister à la représentation du mélodrame « Lucie de la Mermoor » de Donizetti. Fermez les yeux un instant et imaginez une atmosphère sombre. Le théâtre devant vous est enveloppé d'un épais brouillard et l'obscurité incombe. Vous allez écouter l'histoire de l'auteur du roman gothique par excellence, Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Godwin, connue comme Mary Shelley, née à Londres en 1787. Sa mère étant philosophe, féministe de surcroît, décédée peu après l'accouchement. Et son père, William Godwin, philosophe lui aussi, mais du genre anarchiste communiste. Mary grandit marquée par la perte de sa mère, tandis que le père s'occupe de son éducation, en l'introduisant dans les milieux intellectuels. En 1814, la jeune fille tombe amoureuse du poète Percy Bysshe Shelley, à l'époque marié, et décide de s'enfuir avec lui à travers l'Europe, suivie par sa demi-sœur Claire Claremont. Retournée en Angleterre, faute d'argent, Mary accouche de sa première fille, qui meurt peu de jours après sa naissance. Cette perte est d'autant plus douloureuse que l'écrivaine anglaise subit la marginalisation de la société à cause de sa relation hors norme. En 1816, elle s'est mariée avec Percy, entre-temps devenu veuf, et les deux écrivains passent l'été au bord du lac de Genève, en compagnie du poète Lord Byron, avec lequel Claire entretient une relation, et du médecin John Polidori. Cet été maudit, ainsi défini par Mary elle-même, est caractérisé par des journées pluvieuses, et pour tromper l'ennui, Lord Byron propose d'écrire des contes du genre horreur. C'est pendant cette période, à l'âge de 19 ans seulement, que la fantaisie de Mary crée Frankenstein, ou le Prométhée moderne. L'écrivaine donne vie à l'un des monstres les plus célèbres de toute la littérature, dans lequel elle déverse aussi beaucoup d'elle-même, de la fatigue de l'accouchement, au vide indescriptible laissé par les pertes subies lors de son enfance, à la maladie qui alors l'avait contrainte à maintenir un bras bandé parce qu'il était bouffi et défiguré. En 1818, après la publication sous forme anonyme de la première édition de Frankenstein, Mary Shelley revient en Italie et sa découverte du lac de Com en avril constitue l'un des moments phares de ce voyage qui se déroule sous le signe de la plus parfaite idylle. Par la suite, elle perd 2 de ses enfants et tombe dans une profonde dépression, apaisée seulement par la naissance du dernier des garçons, Percy Florence. Du point de vue littéraire, ce sont au contraire des années très productives, mais la mort de Percy en 1822, pendant une traversée en mer, oblige Mary à s'occuper de la révision des éditions de recueils poétiques de son mari, pour pouvoir élever le seul enfant survivant. De 1840 à 1842, Mary voyage à travers l'Europe avec son fils. Et c'est durant ces déplacements qu'est née l'œuvre « S'est baladée à travers l'Allemagne et l'Italie ». Tous deux arrivent à Com en 1840, après avoir traversé Chiavenna, Colico et Cadenabbia, et y restent pendant tout le mois d'août, mois pendant lesquels ils visitent certaines parmi les plus célèbres villas du lac. Et Mary se déplace en bateau aussi pour se rendre au Théâtre Social de Com. L'écrivaine passe enfin les dernières années de sa vie dans la souffrance, à cause d'une maladie. Probablement une tumeur au cerveau, qui l'emporte en 1851, à l'âge de seulement 54 ans. Peu de mois auparavant, en mai 1850, elle s'était rendue une dernière fois au bord du lac de Com, comme en témoigne une lettre écrite depuis Cadenabbia. La façon dont Mary et Percy Shelley ont perçu le lieu visité autour du lac de Com a été fortement influencée par certains écrivains qui les ont précédés et que vous avez déjà rencontrés le long de notre Lake Como Poetry Way. En fait, ils n'arrivent pas ici par hasard, mais suite à la découverte des œuvres des deux Pline, qu'ils avaient approfondies pendant l'été maudit de 1816, passé à Genève. Parmi les inspirateurs du cadre culturel de Frankenstein, elle fait appel à un autre citoyen de Com, Alessandro Volta, l'inventeur de la pile. Dans le premier chapitre, le médecin éponyme est frappé par les études sur l'électricité au point d'abandonner les lectures des naturalistes du passé, à l'exception de Pline et Buffon, aussi utiles qu'intéressants. En 1831, Mary publie une nouvelle édition de Frankenstein, où elle change l'histoire d'Elisabeth, la demi-sœur et épouse du scientifique, qui devient la fille d'un patriote italien emprisonné par les Autrichiens et adopté pendant des vacances à Côme. Si Frankenstein est considéré comme étant le premier roman du genre gothique horreur, avec un autre livre, Mary Shelley inaugure le non moins heureux genre apocalyptique, Le Dernier Homme, où le protagoniste passe le dernier jour heureux sur les bords du lac de Côme, et précisément dans la villa pliniana de Torno, que le Shelley en 1818 avait essayé en vain de louer, et où, également en vain, ils avaient invité Lord Byron à les y rejoindre. Mais l'écrivaine était tellement fascinée par ces lieux qu'elle décide de modifier encore son plus célèbre roman. Et dans la troisième édition de Frankenstein, le lac de Côme apparaît comme un endroit si agréable et si romantique que le médecin Victor Frankenstein projette de s'y rendre pour le voyage de noces avec son épouse, sa propre sœur adoptive, qui était une jeune fille originaire de la région de Côme. L'amour pour l'Elario, la mort de sa mère juste après sa naissance et les motivations sociales et politiques dans lesquelles elle a été élevée sont tous des éléments qui caractérisent les œuvres de Mary Shelley, en la rendant ainsi un des personnages les plus envoûtants qu'on trouve sur notre parcours. Le livre consacré à son voyage de 1840 est maintenant disponible en italien sous le titre « Azzonzo sul lago di Como » grâce à un projet de l'association Sentiero dei Sogni, qui a œuvré pour la réalisation du Lake Como Poetry Way. À ce point, nous vous proposons ses propres réflexions sur Giuditta Pasta, qui résidait de son vivant dans le village lacustre de Blevio, où elle est d'ailleurs enterrée, et qu'elle rencontra lors de son déplacement en bateau pour rejoindre Como afin d'assister à l'opéra au théâtre social de la ville. Madame Pasta possède une villa sur le lac à quelques milles de Como. Elle a une peur bleue de l'eau, et c'est pourquoi elle n'emprunte jamais les bateaux pour s'y rendre. Malheureusement, il n'y a pas de route sur cette rive-là du lac. Mais étant donné qu'elle possède une autre demeure sur la rive opposée, c'est là-bas qu'elle va se réfugier, en attendant que les eaux se calment, si le temps est orageux. Je garde pour moi mes opinions. À quel point les éléments atmosphériques sont si impolis vis-à-vis d'elle, au point qu'ils n'obéissent pas à une voix douce comme la sienne, rien ne meut ni pénètre dans le cœur des hommes. Dans Juliette, Médée et surtout dans la tendresse touchante et innocente de l'air d'ouverture de la Nina folle d'amour du divin Paisiello, elle a emporté l'ultime morceau de glace de mon cœur, pour ensuite le laisser fondre en les transformant en des larmes le plus douces qui soient. Seulement Pasta et Paganini ont ce pouvoir sur moi, même si de façon si différente.